Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Eric Manela qui est à la présentation de cette édition du vendredi 30 avril 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Nigeria, le président Buhari sous le feu de critiques pour son incapacité à endiguer l'insécurité. L'ONU dénonce l'usage disproportionné de la force contre les manifestations au Tchad. Au moins 44 morts dans une bousculade à un pèlerinage juif en Israël. Arrivée de l'aide médicale américaine en Inde, qui fait face à une énorme recrudescence des cas de Covid-19. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. La pression politique augmente sur le président nigérian Muhammadu Buhari, critiqué pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans plusieurs régions du pays, alors que son gouvernement affirme faire de son mieux pour contenir la violence. Le point avec Nathalie Barge.
Les critiques fusent jusque dans son camp. Smart Adeyemi, un sénateur du parti présidentiel, a estimé que la situation était pire qu'une guerre civile et le ministre de la Défense, Bachir Magashi, a reconnu une action en sang tout en blâmant une élite prête à attiser les violences pour ses propres intérêts. Mardi, le Parlement a demandé au président Buhari de déclarer l'état d'urgence. Plusieurs parlementaires, gouverneurs et même le lauréat du prix Nobel de littérature Wole Soyinka ont appelé le président à contenir les violences. L'opposant Bukola Saraki a déclaré que les paroles ne suffisaient pas et qu'il fallait des actions. Monsieur Buhari a remplacé les chefs de l'armée en janvier lors d'une réunion en ligne avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Mardi, il a appelé à une plus grande coopération des partenaires. Le Nigeria est en proie à de multiples conflits entre une insurrection djihadiste dans le nord-est, les bandes criminelles qui pratiquent des enlèvements dans le nord-ouest et les séparatistes qui visent les forces de sécurité dans le sud-est du pays.
Les dépouilles de deux journalistes espagnols et d'un défenseur irlandais de la faune assassiné en début de semaine au Burkina Faso sont arrivées ce matin sur une base militaire proche de Madrid. Les trois hommes ont été tués dans l'est du Burkina Faso. L'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie ont réaffirmé leur volonté de maintenir leur coopération, notamment sécuritaire, avec les pays du Sahel, dans un communiqué commun publié à Madrid peu après l'arrivée des dépouilles de trois Européens. L'ONU déplore l'usage disproportionné de la force dans des manifestations contre la junte au pouvoir au Tchad. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme demande le retour à l'ordre constitutionnel. Le point avec Abdelrahman Dia.
La porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme rappelle aux nouvelles autorités tchadiennes leurs obligations en vertu du droit international relatif aux droits humains et qu'elles doivent garantir le droit à la liberté de réunion pacifique. Marta Hurtado, lors d'un point de presse à Genève, indique que le décret imposant une interdiction générale des manifestations sans autorisation préalable peut porter atteinte à l'exercice du droit de réunion pacifique. Le Haut Commissariat demande aux institutions publiques concernées de mener des enquêtes impartiales, rapides, efficaces et transparentes sur les violations des droits humains qui ont pu être commises. L'opposition et la société civile ont manifesté mardi pour dénoncer le coup d'état institutionnel après la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby suite au décès de son père. 6 personnes ont été tuées à N'Djamena et dans le sud du pays selon les autorités, 9 selon une ONG locale.
Le président béninois Patrice Talon a affirmé vendredi ne pas envisager de gracier les opposants arrêtés lors de la campagne électorale. Je n'envisage pas l'impunité, je n'envisage pas à nouveau de fermer les yeux sur ce qui s'est passé ou bien de gracier ou d'amnistier, a déclaré M. Talon. Il s'agit de Rekia Madougou du parti Les Démocrates, accusé d'avoir voulu faire assassiner des personnalités politiques pour empêcher la tenue de l'élection. Et de l'universitaire Joël de Haïvo, arrêté au lendemain du scrutin, accusé quant à lui d'atteinte à la sûreté de l'État. Une figure de la société civile ivoirienne, Kulcheri Balé, a appelé vendredi à une véritable réconciliation nationale 2 jours après sa libération de prison. lors d'une conférence de presse à Abidjan. Elle dit espérer que le troisième mandat du président Alassane Ouattara, contre lequel elle s'est battue et qui a fait tant de victimes, sera celui de la vraie réconciliation sans ruse et sans faux fuyant. Près de 30 000 personnes ont été forcées de fuir la petite ville de Palma dans le nord-est du Mozambique depuis l'attaque djihadiste du 24 mars. Selon le gouvernement et les ONG, ces nouveaux déplacements portaient désormais à 700 000 le nombre de personnes déplacées. Les forces de sécurité de la RDC ont dispersé violemment le sit-in de lycéens rassemblés depuis une semaine devant la mairie de Beni dans l'est du pays pour protester contre la violence des groupes armés. L'ex-ministre de l'enseignement primaire de la RDC a été condamné à 3 ans de prison pour blanchiment d'argent et transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Son fils Joël a été condamné à 6 mois de prison. Samia Suluhu Hassan, qui a succédé à John Magufuli à la tête de la Tanzanie, a été élue vendredi présidente du Chama cha Mapinduzi, le parti au pouvoir. Première femme présidente de la Tanzanie, elle devient également la première femme à la tête du CCM. Depuis son investiture le 6 avril, elle a amorcé une rupture avec son prédécesseur, critiqué pour son style autoritaire. En Afrique du Sud, l'épouse du roi des Zoulous récemment décédé, qui avait été nommée régente dans l'attente de la nomination d'un successeur, c'est à son tour éteinte jeudi. La reine, qui était la principale des 6 épouses du chef traditionnel Goodwill Zwelithini, avait été hospitalisée quelques semaines à peine après sa mort. Montfombi Dlamini, 65 ans, était aussi la sœur de l'actuel roi des Swatini d'ex-Swaziland.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a marqué jeudi son 100e jour au pouvoir avec un déplacement en Géorgie pour promouvoir des plans d'investissement colossaux qui peuvent, selon lui, transformer le pays. Le président avait détaillé mercredi soir un projet pour les familles américaines de 1 800 milliards de dollars sur 10 ans, un large plan d'investissement dans les infrastructures de 2 000 milliards de dollars. Il leur faudra cependant être adopté par le Congrès, ce qui est loin d'être gagné. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra en Ukraine en mai pour y témoigner du soutien indéfectible des États-Unis à Kiev. Selon le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, ce déplacement de M. Blinken le 5 et 6 mai a pour but de soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale ukrainienne face à l'agressivité de la Russie. En Israël, au moins 44 personnes ont péri dans une bousculade géante et 150 personnes blessées lors d'un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
C'est l'une des plus graves catastrophes de l'histoire d'Israël, a tweeté le premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a décrété un jour de deuil national dimanche. Des dizaines d'ambulances sont intervenues pour évacuer des corps et 6 hélicoptères ont aussi transporté des blessés dans des villes proches. Les circonstances du drame ne sont pas encore établies. Les autorités ont permis la présence de 10 000 personnes à ce pèlerinage, mais selon les organisateurs, il y avait le triple, alors que la presse locale fait état de près de 100 000 participants. Ce pèlerinage a lieu à l'occasion de la fête juive de l'Agba Omer. Il se tient à Meron, autour du tombeau présumé des rabbis Shimon Bar Yochai, auquel on attribue la rédaction du Zohar, ouvrage central de la mystique juive. Des funérailles sont prévues ce vendredi à Jérusalem et Tel Aviv.
Les premières cargaisons d'aide médicale américaine sont arrivées en Inde, confrontées à une recrudescence exponentielle des cas de Covid-19. Plusieurs régions sont à court de vaccins à la veille de l'ouverture de la campagne de vaccination à tous les adultes. Le point avec Jacques Aristide.
Un transporteur militaire Super Galaxy contenant plus de 400 bouteilles d'oxygène, de même que d'autres équipements hospitaliers et près d'1 million de tests rapides de dépistage du coronavirus a atterri à l'aéroport international de New Delhi alors que la capitale indienne lutte contre une crise sanitaire sans précédent. L'Inde a fait état d'un nouveau record mondial de 385 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures et près de 3 500 décès. L'aide américaine partie de la base militaire de Travis en Californie fait suite aux entretiens qui ont eu lieu cette semaine entre le président américain Joe Biden et le premier ministre indien Narendra Modi. Les États-Unis sont en train de livrer des cargaisons d'une valeur de plus de 100 millions de dollars afin de fournir une aide urgente dans les prochains jours à nos partenaires en Inde, a déclaré hier Ned Price, porte-parole du département d'État. D'après les responsables américains, les vols spéciaux qui transporteront également des équipements donnés par des entreprises et des particuliers se poursuivront la semaine prochaine.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, suivez John Lyndon pour vous présenter la Minute Éco.
Le FMI a conclu avec le Sénégal un accord concernant les mesures économiques et financières qui pourraient permettre l'approbation de la troisième revue du programme appuyé par l'instrument de coordination de la politique économique. Les deux parties ont également conclu un accord de financement sur 18 mois au titre de la facilité de crédit de confirmation et du mécanisme d'accord de confirmation pour un montant total de 650 millions de dollars. Le Burkina Faso a levé le 28 avril sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 66 milliards de francs CFA au titre de son émission d'obligation de relance du trésor de maturité 3 et 5 ans organisée en partenariat avec l'agence UMOA, titre basée à Dakar. Amazon, l'un des plus grands gagnants de la pandémie, a enregistré des bénéfices records jeudi. Alors que les magasins physiques ont fermé leurs portes, Amazon a enregistré 4 bénéfices trimestriels records consécutifs. Ces bénéfices d'exploitation pour le trimestre en cours devraient se situer entre 4 et 8 milliards de dollars. Le géant du commerce en ligne a aussi attiré plus de 200 millions d'abonnés Prime et recruté plus de 500 000 employés.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo est avec nous. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. 11 au départ, ils ne sont plus que 3 en lice pour le prix Marc Vivien Foué, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1 de la saison. Il s'agit du milieu offensif congolais de Lens, Gaël Kakuta, de l'attaquant algérien de Montpellier, Ndidi Lor, et de l'avant-centre zimbabwéen de Lyon, Tino Kadawere. En termes de chiffres, durant leur saison toujours en cours, Gaël Kakuta a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, pendant que Tino Kadawere est à 10 buts et 3 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 également. Ndidi Lor, lui, compte 12 buts et 10 passes décisives en 26 matchs dans le championnat français de première division. Madagascar a suspendu Nicolas Dupuis, l'entraîneur français qui l'a mené jusqu'en quart de finale lors de ses débuts dans la CAN il y a 2 ans. Selon la Fédération malgache de football, l'entraîneur de 53 ans est suspendu jusqu'à nouvel ordre et ne sera pas rémunéré pendant la période de suspension. Le communiqué accuse Dupuis d'interférence dans le processus de sélection du fournisseur d'équipement de l'équipe nationale. Il est remplacé provisoirement par Eric Rabesandata. Madagascar se prépare pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 contre le Bénin et la Tanzanie en juin. En Europe, un match aller de la demi-finale de la Ligue Europa hier, le roi de la compétition Unai Emery a pris sa revanche sur son ancien club. Villarreal du Nigérian Samuel Chukwueze a pris une petite option sur la finale en battant à domicile Arsenal 2-1. En face, l'international ivoirien Nicolas Pepe a maintenu l'espoir pour les Gunners en transformant un pénalty qu'il a lui-même provoqué à la 73e. Dans l'autre demi-finale, aller, Manchester United s'est offert une victoire confortable 6-2 contre la Roma. L'ivoirien Eric Bailly et ses coéquipiers prennent ainsi une belle option sur la finale du 26 mai en Pologne. Écran noir sur les réseaux sociaux, plusieurs sportifs et clubs, principalement anglais, ont lancé ce vendredi un mouvement de boycott prévu pour durer tout le week-end pour protester contre les injures en ligne, notamment le racisme. Bagassi Koura.
Le club de Manchester United, le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, mais aussi la Fédération internationale de tennis et même l'UEFA suivent le mouvement. Les Red Devils ont décidé de ne pas alimenter leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram ce week-end en signe de protestation. Nous resterons silencieux jusqu'au 4 mai, a décidé la Première Ligue anglaise. Les injures et insultes envers les joueurs sur les réseaux sociaux ont été multipliées par 4,5 depuis septembre 2019 dénonce Manchester United, précisant que 86% des publications visées comprennent des injures racistes et 8% sont homophobes ou transphobes.
Merci, Bagassi.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Mandakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, trois jours après la manifestation initiée par la coalition de l'opposition et de la société civile dénommée Wakit Tama, une manifestation violemment réprimée dans le sang, un calme règne dans la capitale N'Djamena. Entre-temps, les autorités judiciaires continuent de gérer les manifestants arrêtés les 27 et 28 avril. Les prisonniers de guerre, eux, ont été transférés à la prison de haute sécurité de N'Djamena. Sur le champ de bataille contre la rébellion, la situation est toujours confuse. Plusieurs factions rebelles se font signaler au nord et l'ouest du pays. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Des sources indépendantes confirment l'arrestation de plus de 700 personnes le 27 et 28 avril lors de la manifestation initiée par la coalition Wakit Tama pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel et la démission du conseil militaire de transition. 256 prisonniers de guerre sont également déférés au parquet. Les autorités judiciaires se disent submergées et ne peuvent pas, à l'heure actuelle, donner le nombre exact des prévenus. Elles avancent que le remplissage des procès-verbaux sont toujours en cours. Par ailleurs, le sixième vice-président de l'Assemblée nationale dissoute, Rakis Ahmad Saleh, impute la responsabilité de la crise politique actuelle au président de l'Assemblée nationale.
J'estime que cette situation tragique aurait pu être évitée si le président de l'Assemblée nationale, qui a déclaré son indisponibilité à assumer ses prérogatives constitutionnelles, a daigné consulter au préalable le bureau de l'Assemblée nationale.
Dans un mémorandum de 4 pages, le président du parti Lingui, Dr Madani Mahamat, fait une proposition de la création du cadre officiel de dialogue en impliquant les institutions internationales et les pays amis pour une sortie de crise.
Le cadre officiel de dialogue, on l'a conçu sous l'égide des organisations et représentations diplomatiques qui sont l'ONU, l'Union africaine, la CENSAT, la CEAC, le Soudan, la France et le Niger. La deuxième étape, c'est la conclusion et la concrétisation d'un cessez-le-feu.
Plusieurs personnes tuées par balle lors de la manifestation du 27 avril seront inhumées demain à N'Djamena. Le rapporteur général du Forum des organisations de la société civile du Tchad, Rangoon Léopold, appelle la population à rendre un hommage mérité à ces martyrs sans donner les détails.
Nous lançons un appel à toute la population de sortir massivement demain 1er mai dans les rues manifester nos colères et aussi de sortir accompagner nos frères qui sont tombés suite aux manifestations. Leur mort sera vaine si nous baissons le bras.
Entre-temps, une dizaine des organisations de la société civile et des personnes ressources ont dans une lettre demandé au Conseil de sécurité de l'ONU et au président français Emmanuel Macron disait de leurs prérogatives pour éviter la monarchisation, selon eux, du pouvoir au Tchad. Maître Kenelim Djraibi Delphine, avocate principale du PILC, fait partie des signataires.
Nous avons estimé qu'il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies aide le Tchad à sortir de cette situation où une famille veut prendre tout un peuple en otage. Dans ce qui concerne la France, nous avons également écouté que le président Macron est revenu pour faire une déclaration allant aussi dans le sens du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Mais nous attendons de la France des actes un peu plus concrets.
Sur le terrain, des accrochages ont eu lieu hier aux alentours de Nuku, dans la province du Kanem. Des rebelles affirment avoir abattu un hélicoptère de l'armée tchadienne. Mais selon le porte-parole du CMT, le général Azem Bermando Aguna, c'est un accident technique qui a coûté la vie aux 3 membres d'équipage. André Kodmajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Cameroun, l'armée affirme avoir tué des combattants de Boko Haram lors d'affrontements cette semaine. Elle dit avoir aussi repoussé d'autres membres du groupe djihadiste vers le nord-est du Nigeria. Mais des responsables camerounais ajoutent que certains des terroristes se cachent toujours dans des coins le long de la frontière et appellent les villageois à dénoncer les suspects. De Yaoundé, le reportage de Moki Edwin Kinzeka avec le récit de Jacques Aristide.
Ce sont environ 80 terroristes que les troupes camerounaises disent avoir chassés de Fotokol, une ville à la frontière avec le Nigeria. D'après un communiqué de l'armée du Cameroun émis mercredi dernier, les combattants de Boko Haram étaient venus de la ville nigériane de Wulgo dans l'état de Borno. Les combats ont été violents. Selon les militaires camerounais, Boko Haram s'est échappé avec les cadavres de ses combattants tués au cours de ces affrontements, ne laissant que deux corps derrière. Ils ajoutent avoir détruit six jeeps et saisi un vaste arsenal comprenant des mitrailleuses et des fusils d'assaut. L'opération menée lundi dernier était dirigée par les troupes de la Force opérationnelle multinationale interarmée de la Commission du bassin du lac Tchad. Des civils enlevés par les combattants de Boko Haram ont également été libérés, selon Cyril Serge Atonfak Gouemo, porte-parole de l'armée camerounaise. Zumbaizi Babalé, 19 ans, a été témoin du kidnapping.
Ils étaient venus vers la chambre de la sœur Gilberte, on l'a pris. Et puis ils sont venus chez le prêtre. Quand ils étaient partis, nous aussi, comme on a suivi le bruit, on est sortis. On est partis les voir, ils ne sont plus là-bas.
Pour Midji Yawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, les combattants de Boko Haram se cachent toujours près de la frontière. Ils demandent aux habitants de dénoncer les étrangers dans leurs villes et villages. Le gouverneur Bakari est interrogé via l'application de messagerie WhatsApp de la ville nordique de Maroua.
Les gens ne sont pas très avertis dans les mosquées, dans les gares routières, dans les églises. Nous devrons davantage nous remobiliser. Nous partageons une très longue frontière avec le Nigeria et le Tchad. Nous devrons accentuer le contrôle des biens des personnes pour la protection du territoire national.
L'attaque de lundi dernier est intervenue une semaine après l'annonce du Tchad de la mort de son président Idriss Déby Itno. Le spécialiste de la résolution des conflits, Joseph Vincent Ntouda Mbodé, de l'université de Yaoundé, affirme que les terroristes se sont peut-être mobilisés en pensant que le Tchad a rappelé ses troupes et qu'il y a moins de soldats déployés pour combattre Boko Haram.
L'absence du Tchad dans ces différents théâtres d'opération se fera sentir d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas encore comment vont se comporter ses successeurs par rapport à de telles initiatives et surtout s'ils vont durablement continuer à soutenir comme le président Idriss Déby l'a fait de son vivant. Mais une chose est sûre, il y aura des ajustements entre les rebelles ou même les terroristes.
Ce sont environ 8000 soldats de la force opérationnelle multinationale interarmée qui luttent contre Boko Haram. Cette force n'a pas indiqué si le Tchad avait retiré ses troupes ou non.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, le gouverneur de l'État du Niger a indiqué que des militants de Boko Haram s'étaient emparés d'une partie du territoire. La déclaration faite lundi dans une vidéo largement diffusée indiquait que le groupe islamiste avait hissé son drapeau dans la ville de Kaoré, enlevé des femmes et fait fuir des milliers de personnes. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
Enoch Obemisor, 41 ans, vit dans la crainte lors de ses trajets quotidiens de 2 heures entre son domicile du village de Tafa dans l'état du Niger et Abuja pour gérer son entreprise d'imprimerie. Il souligne qu'il est dangereux de conduire la nuit à cause de la menace sécuritaire.
Dès 5 heures du matin, je pars d'ici. Nous essayons à présent de voir comment nous pouvons nous organiser pour former un groupe de vigilance afin de se protéger, car ce n'est pas drôle du tout.
Selon le gouverneur de l'État du Niger, Aboubakar Bello, au moins 3000 habitants ont fui Corée lorsque les islamistes ont attaqué la ville et enlevé plusieurs femmes. Monsieur Bello a déclaré à Lagos que la présence de Boko Haram dans l'État du Niger représente une menace pour la capitale voisine Abuja.
Je suis engagé avec le gouvernement fédéral et malheureusement la situation est telle dans cet état que si des précautions ne sont pas prises, même Abuja n'est pas en sécurité. Kaoré est à moins de 2 heures de route d'Abuja, donc personne n'est plus en sécurité.
Les autorités militaires démentent l'affirmation selon laquelle les djihadistes contrôlent l'état du Niger et assurent que les résidents d'Abuja sont en sécurité. Le commissaire de police de la capitale fédérale, Bala Siroma, a ordonné des patrouilles de sécurité renforcées autour des écoles. L'analyste de Beacon Security, Kabirou Adamou, affirme que les militants pourraient agrandir leur zone d'opération s'ils ne sont pas arrêtés rapidement.
Malheureusement, c'est quelque chose qui peut s'étendre dans le temps, sauf si les stratèges antiterroristes du Nigeria sont capables d'empêcher cette expansion.
Dimanche, des militants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué une base militaire à Menok dans l'État de Borno, tuant au moins 30 soldats. L'ISWAP est une faction de Boko Haram qui a prêté allégeance au groupe État islamique en 2015. En 2019, le président Muhammadu Buhari avait affirmé que les djihadistes avaient été vaincus alors que les attaques se sont intensifiées et constituent toujours une menace majeure.
La RDC célèbre chaque 30 avril la journée nationale de l'enseignement. Cette célébration intervient dans un contexte difficile lié à la mise en application de la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement en fait une priorité, mais les enseignants, les parents et les élèves restent sceptiques. Des précisions avec notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba.
De la journée nationale de l'enseignement intervient au lendemain de la condamnation pour 3 ans de prison de Willy Bakonga, ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, jugé en flagrance et en attente du procès sur les fonds alloués à l'enseignement. Pour son successeur, Tony Mwaba, cette journée est une occasion pour la RDC de reconnaître la vocation de l'enseignant congolais.
La célébration de ce jour me donne l'opportunité de reconnaître à sa juste valeur la vocation portée par ces femmes et ces hommes qui ont choisi de transmettre les savoir-faire et les savoir-être aux enfants congolais.
Pour Pierre Nganga, enseignant au collège Saint-Cyprien, école conventionnée catholique, cette journée valorise l'enseignant congolais.
C'est une journée vraiment qui montre que l'enseignant a une place parce que par avant, les gens ne pensaient même pas que l'enseignant a aussi une valeur. C'est pour cela que nous fêtons cette journée.
Mais l'enseignement de base en RDC fait face depuis 2 années déjà à la gratuité, une mesure du gouvernement qui pèse financièrement sur les enseignants. Pierre Nganga.
La gratuité c'est bien, mais la faisabilité, en tout cas, ça ne marche pas bien. Si l'enseignant n'arrive pas à survivre au bout du mois, vous pensez que l'enseignant doit préparer les cours très bien pour aller enseigner?
Les parents, de leur côté, se plaignent également, se disent ne pas être à l'aise avec l'application de cette mesure du gouvernement. Déborah Toulomba est parente avec 2 enfants qui partent à l'école.
Bien sûr, la gratuité de l'enseignement des enfants ne sont pas à l'aise parce qu'il y a beaucoup des inconvénients qui se produisent à propos de l'enseignement des enfants. Il y a des enfants qui partent à l'école sans pourtant être enseigné. On est en train de nous demander certains frais qu'on est en train de payer pour l'avantage de nos enfants.
Mais sur terrain, les élèves déplorent également l'absence des enseignants pour dispenser les cours. Jaël Louyeye est élève à l'école Saint-Augustin.
Les professeurs n'entrent plus vraiment dans les salles de classe et on paie aussi les frais, mais les professeurs n'entrent pas vraiment dans les salles de classe.
Cette gratuité de l'enseignement a fait déserter certains enseignants. Le cas de Billy Kinkela, ex-professeur de français au lycée Toyokana. École conventionnée catholique.
Étant donné que les parents ne pouvaient pas supporter l'éducation des enfants, aujourd'hui, ce que l'État donne à un enseignant, à un licencié, par exemple, c'est autour des 360 000, donc c'est moins de 200 dollars. Ça ne permet pas à un enseignant bien s'en sortir. Donc pour mon cas, c'est ce qui a fait que je puisse arrêter avec l'enseignement.
Face à toutes ces réalités, les gouvernements congolais rassurent.
Nous avons pris nos fonctions en tant que ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en exprimant clairement notre engagement à réussir les défi de la gratuité tout en poursuivant les efforts d'amélioration de la qualité de l'éducation afin d'offrir aux élèves congolais une formation qui répond véritablement aux besoins et enjeux de notre pays.
Il est à noter que la gratuité de l'enseignement demeure une priorité du quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. De Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagno, Lionel Lagaïma, Eric Manirakidza a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.